Brothers and sisters,
frères et sœurs,
this is Sammy
voici
Ho Ching.
Sammy Ho Ching, âgé de 7 mois, regardant la conférence générale d'avril dernier depuis chez lui. Tandis que l'on s'approchait du moment de soutenir le président Nelson et les autres autorités générales, Sammy tenait fermement son biberon des deux mains. Donc il a ensuite fait ce qu'il y avait de mieux. Sammy donne un sens entièrement nouveau au concept de vote par les pieds.
Welcome to the semi-annual conference
à la conférence
of the Church of
semi-annuelle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Comme entrée en matière à la signification de ces rencontres biannuelles, j'évoquerai cette scène de l'Évangile de Luc dans le Nouveau Testament. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Surpris par son audace, les gens essayèrent de le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort. À force de persister, il fut emmené à Jésus, qui entendit son plaidoyer, rempli de foi, pour qu'on lui rende la vue et le guérisse. Cette anecdote frappante m'émeut chaque fois que je la lis. On peut y ressentir la détresse de cet homme. On pourrait presque l'entendre crier pour capter l'attention du Sauveur, sa détermination de crier plus fort alors que tout le monde lui enjoignait de se taire. Nous fait sourire. C'est là l'histoire touchante d'une foi inébranlable qui parle d'elle-même. Mais, comme pour toutes les Écritures, plus nous la lisons, plus nous y découvrons des choses. Une idée qui m'a frappé récemment est que cet homme avait le bon sens de s'entourer de personnes spirituellement sensibles. L'essence de cette histoire repose sur une poignée d'hommes et de femmes anonymes qui, quand leur ami leur a demandé « Pourquoi cette commotion ?», ont eu la bonne perception de reconnaître le Christ comme la raison de cette clameur. Il était le sens incarné. Il y a une leçon pour chacun d'entre nous dans ce bref échange. Dans le domaine de la foi et des convictions, il est bon d'adresser vos questions à ceux qui en sont dotés. Jésus a demandé un jour, « Un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Si c'est le cas, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse ?» Cette quête de foi et de conviction est notre objectif pour ces conférences. En vous joignant à nous aujourd'hui, vous prendrez conscience que cette recherche est une entreprise largement partagée. Vous voyez ici des familles de toutes tailles venant de partout. Joyeux de se retrouver, de vieux amis s'embrassent. Un merveilleux cœur s'exerce. Et des manifestants poussent des cris du haut de leur tribune favorite. Les missionnaires plus anciens recherchent d'anciens compagnons de service, tandis que ceux qui viennent de revenir de mission cherchent un tout nouveau compagnon, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ce qui est des photos, que le ciel vienne à notre secours. Avec un téléphone mobile dans chaque main, nous sommes passés du slogan « Chaque membre un missionnaire à chaque membre », un photographe. Toute cette merveilleuse effervescence pourrait nous mener à nous demander, à juste titre, tout cela a-t-il un sens? Tout comme pour notre histoire du Nouveau Testament, ceux qui ont la bénédiction de voir admettront que, en dépit de tout ce que cette tradition de conférence peut offrir, elle n'aurait pas beaucoup de sens si nous ne trouvions pas Jésus au centre de tout. Pour capter la vision recherchée, la guérison qu'il promet, la signification que nous savons au fond de nous-mêmes pouvoir y trouver, nous devons transcender cette effervescence, aussi réjouissante soit-elle, et concentrer notre attention sur lui. La prière de chaque orateur, l'espérance de tous ceux qui chantent, la révérence de chaque participant, tout cela vise à favoriser la présence de l'Esprit, de celui dont c'est l'Église, à savoir le Christ vivant, l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Mais nous n'avons pas besoin de nous trouver dans un centre de conférence pour le trouver. Lorsqu'un enfant lit le livre de Mormon pour la première fois et qu'il est séduit par le courage d'Abinadi ou par la marche des 2000 jeunes guerriers, nous pouvons gentiment lui faire remarquer que Jésus est le personnage central et omniprésent de ces merveilleuses chroniques. Tel un géant, il domine pratiquement chaque page de ces histoires et représente la source essentielle de la foi de toutes ces personnes remarquables. De même, lorsqu'un ami découvre notre foi, il peut être un peu dépassé par quelques-uns des aspects uniques et inconnus de notre Église, ainsi que par notre vocabulaire ecclésiastique, dont il n'a pas l'habitude, par exemple les restrictions diététiques, notre programme de réserve, la marche historique des pionniers, les arbres généalogiques numérisés et un nombre incalculable de centres de pieux où certains se sont sans doute attendus à se voir servir un morceau d'aloi au mi-saignant, cuit au barbecue. Donc, tandis que nos nouveaux amis découvrent une multitude de nouvelles visions et de sonorités, nous devons faire en sorte qu'ils aillent au-delà de toute cette effervescence et qu'ils se concentrent sur le vrai sens de tout cela qui se trouve au cœur de l'Évangile éternel, qui est l'amour de nos parents célestes, le don expiatoire d'un Fils divin, les conseils réconfortants du Saint-Esprit, le rétablissement dans les derniers jours de toutes ces vérités, et bien plus encore. Lorsque quelqu'un se rend dans l'un de nos saints temples pour la première fois, il peut en ressortir frappé d'admiration et de stupéfaction. Notre responsabilité est de nous assurer que les symboles sacrés et les rites révélés, les vêtements de cérémonie ainsi que les présentations visuelles ne constituent jamais une distraction qui éloigne les gens du Sauveur, mais quelque chose qui les conduit vers lui, car c'est lui que nous sommes venus adorer à cet endroit. Le temple est sa maison et le Christ et sa majestueuse doctrine devraient être omniprésents dans notre esprit et notre cœur, imprégnant ainsi notre être, tout comme elle imprègne les ordonnances du temple, dès le moment où nous lisons l'inscription sur la porte d'entrée, jusqu'à la dernière minute passée dans ce bâtiment. De toutes les merveilles auxquelles nous nous sommes exposés, nous devons voir, au-delà de tout le reste, Jésus représenté dans le temple. Pensez au tourbillon d'actions audacieuses et aux nouvelles annonces faites par l'Église au cours de ces derniers mois. Tandis que nous assurons un service pastoral, ou affinons notre expérience du sabbat, ou adoptons un nouveau programme pour les enfants et les jeunes, nous risquons de passer à côté de la raison réelle de ces modifications reçues par révélation. Si nous les voyons comme des éléments disparates et sans rapport les uns avec les autres, et non comme un effort où tout est lié pour nous aider à bâtir solidement sur le rocher de notre salut. C'est certainement ce que le président Nelson a en vue, en nous faisant utiliser le nom révélé de l'Église. Si Jésus, son nom, sa doctrine, son exemple et sa divinité peuvent se trouver au cœur de notre culte, alors nous appliquerons la vérité qu'Alma a enseignée. Il y a beaucoup de choses à venir, Mais voici, il y a une chose qui a plus d'importance qu'elles toutes. Le Rédempteur qui vivra et viendra parmi son peuple. Une réflexion pour conclure. Au XIXe siècle, la région où vivait Joseph Smith était embrasée par une foule de témoins chrétiens en concurrence les uns avec les autres. Mais, paradoxalement, toute l'agitation provoquée par ses partisans d'un réveil religieux obscurcissait la compréhension du Sauveur que le jeune Joseph recherchait avec tant de détermination. Combattant ce qu'il appelait les ténèbres et la confusion, il se retira dans la solitude d'un bosquet où il vit et entendit un témoignage plus glorieux du rôle central du Sauveur dans l'Évangile qu'aucun de ceux que nous avons mentionnés ici. Par un don de vision incroyable et inattendu, Joseph Smith vit son Père Céleste, le grand Dieu de l'univers et Jésus-Christ, son Fils unique, parfait. Ensuite, le Père donna l'exemple que nous avons applaudi ce matin. Il désigna Jésus en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. » Il n'y a pas de plus grande expression de l'identité divine de Jésus, de sa primauté dans le plan du salut et de sa place aux yeux de Dieu qui puisse surpasser cette déclaration de sept mots. Agitation et confusion, foules et querelles. Il y a beaucoup de tout cela dans notre monde. En fait, les sceptiques et les croyants continuent de contester cette vision et quasiment tout le reste auquel j'ai fait référence aujourd'hui. Si vous vous efforcez de voir les choses plus clairement et de trouver un sens à la vie parmi une multitude d'opinions, j'attire votre attention dans la direction de ce même Jésus et rends mon témoignage apostolique de l'expérience de Joseph Smith, qui s'est produite 1800 ans après que notre ami aveugle a reçu la vue sur l'antique route de Jéricho. Je témoigne avec ces deux personnes, ainsi qu'avec une multitude d'autres à travers les siècles, qu'assurément, la vue et les bruits les plus exaltants de notre existence ne sont pas ceux qui ont accompagné le passage de Jésus sur terre, mais le fait qu'il est venu vers nous, qu'il s'est arrêté auprès de nous et qu'il a établi sa demeure parmi nous. Frères et sœurs, malgré le vacarme et les battements de tambour incessants de notre époque, puissions-nous nous efforcer de voir le Christ comme le centre de notre vie, de notre foi et de notre service. C'est là que réside le vrai sens de la vie. Et si parfois notre vision est limitée, ou que notre confiance a décliné, ou que notre foi est mise à l'épreuve et raffinée, ce qui sera certainement le cas, puissions-nous nous écrier plus fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Je vous promets, avec une ferveur apostolique, ainsi qu'une conviction prophétique, qu'il vous entendra et vous dira, tôt ou tard, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Bienvenue à la conférence générale. Au nom de Jésus-Christ. Amen.